Il est 14h10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince, le journal d'Haïti des Amériques. Anne Verdaguet, bonjour.
Bonjour Edmond et bienvenue à tous. On va revenir sur les élections législatives en Colombie avec notre invité Sébastien Velu, professeur à la Sorbonne Nouvelle. La FARC, le parti de l'ex-guérilla, a recueilli très peu d'adhésions. On verra que la population urbaine est celle qui a le plus rejeté l'entrée de l'ex-guérilla en politique en raison des conditions qui leur ont été accordées suite aux accords de paix. Avec Karim Lipold dans la revue de presse, on va parler de ces différentes propositions de l'administration Trump pour armer les enseignants aux États-Unis. Il pourrait y avoir une formation dédiée pour ceux qui veulent apprendre à manier les armes. Et puis toujours aux États-Unis, ce nouveau scandale sexuel qui risque d'éclabousser Donald Trump. L'émission très populaire 60 Minutes a interviewé l'actrice pornographique Stormy Daniels qui parle d'une relation avec le président entre 2006 et 2007. On revient sur les élections législatives en Colombie qui se sont tenues ce dimanche, un scrutin historique auquel les anciens guérilleros des FARC participaient pour la première fois. Bonjour Sébastien Velu.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Selon les derniers résultats, le centre démocratique, la droite dure, a remporté la majorité des sièges, 19 au Sénat, 32 à la Chambre basse, alors que la FARC, le parti né de la guérilla, n'obtient que 0,35% des voix pour le Sénat, 0,22% pour la Chambre des députés. Comment analysez-vous ces résultats ?
Effectivement, l'insertion des FARC dans la vie politique normale de la Colombie est loin d'être assurée. Et on voit au contraire gagner le centre démocratique, c'est-à-dire le parti de l'ancien président Álvaro Uribe, qui a toujours prôné une position dure par rapport à la guérilla.
Et donc les FARC aujourd'hui sont rejetés en majorité par les électeurs. Est-ce que c'est cela qu'on peut dire d'après ces résultats ?
C'est une interprétation qu'on peut donner. Il faut quand même rappeler que d'après les accords de paix, les FARC auront 5 sièges au Sénat et 5 sièges à la Chambre des députés, quel que soit le résultat des urnes, parce qu'on savait bien qu'elles ne seraient pas en mesure de faire une campagne, comme les autres partis. Donc les Colombiens, oui, se sont portés sur les partis plus traditionnels. Et il faut bien voir que les FARC, c'est des effectifs assez petits, hein, c'est quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes qui ont été désarmées. Donc effectivement, ils doivent gagner un espace dans le jeu démocratique et c'est loin d'être assuré.
Très bien, alors la FARC qui rentre tout de même, il faut le noter, pour la première fois au Parlement, cela reste un symbole fort. Est-ce qu'il faudra quand même désormais compter sur l'ancienne guérilla dans le paysage politique ?
Probablement, en termes de discours, en termes de débat, je ne sais pas si la FARC va parvenir à se constituer des bases électorales suffisamment solides pour compter dans les résultats des prochaines élections.
En tête de la coalition de droite, c'est le centre démocratique, vous l'avez noté, du sénateur et ex-président Álvaro Uribe. Celui-ci est un farouche adversaire de l'accord avec les FARC. Est-ce à dire, Sébastien Velu, que ces accords de paix sont aujourd'hui en danger ?
Effectivement, on peut se poser la question, dans les discussions qu'il y avait eu l'année dernière, enfin en 2016, par rapport au vote de ces accords de paix et au référendum qui a eu lieu en Colombie, dont il faut rappeler que ce référendum a d'abord rejeté ces accords de paix. Uribe s'était posé dans une position très critique, notamment sur deux points, qui étaient justement la réinsertion politique des FARC, la remise des FARC dans le jeu politique, et puis aussi sur les aspects de justice transitionnelle, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir des aménagements de peine ou pas de peine du tout par rapport aux faits commis dans la guérilla. Et effectivement, ça peut être tout à fait remis en question.
Il y a ces aménagements de peine dont vous parlez, il y a aussi la loi sur les terres qui pourrait également être remise en cause.
Il y a un point important en Colombie, c'est que la situation de conflit, elle a conduit à l'expulsion des paysans de leurs terres, et cela depuis plusieurs dizaines d'années, et on a eu de l'accaparement de terres par des groupes armés qui pouvaient être soit liés au trafic de drogue, soit liés à la guérilla, soit liés surtout aux groupes paramilitaires, et dont d'ailleurs certains candidats, comme Álvaro Uribe, sont relativement proches, c'est-à-dire des grands intérêts économiques qui veulent récupérer les terres pour des cultures d'exportation au détriment des paysans qui ont été chassés. Donc, dans les accords de paix, il y a tout un volet sur la réforme agraire pour rendre la terre aux communautés paysannes. Et ça va être, quoi qu'il arrive, un sujet très complexe parce que ces terres, même si elles sont pas légitimement possédées, elles sont occupées. Et redonner la terre aux paysans va être conflictuel.
Sébastien Velu, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être effectivement un rejet de la part de la population. Pourquoi finalement cette population rejette ces accords de paix ?
Alors, il faut voir que ce rejet, il est marginal, c'est-à-dire que le rejet, il s'est joué à quelques pourcentages hein, du vote. Et ce que l'on a constaté, c'est que ce rejet, il s'est produit surtout dans les zones urbaines, c'est-à-dire dans des zones d'où la guérilla a été expulsée, a été repoussée par les forces armées colombiennes. Il faut rappeler hein, qu'au milieu des années 80, la guérilla avait des actions jusqu'au cœur de Bogota. Il y a eu la prise du palais de justice en 85. Depuis ce temps-là, hein, l'armée a beaucoup réduit les foyers de la guérilla. Donc avant de négocier, on a commencé par affaiblir l'adversaire. Et ce sont ces populations urbaines qui finalement ne vivent pas ces situations de conflit qui ont voté contre les accords de paix. Non pas parce qu'ils étaient contre la paix, mais ils trouvaient que les conditions faites aux forces démobilisées des FARC étaient trop favorables.
Ces législatives ouvrent la campagne présidentielle qui se tiendra le 27 mai prochain. Il y avait donc des primaires également hier. À droite, c'est le sénateur Duque qui l'a emporté. À gauche, Gustavo Petro, ancien maire de Bogota. Celui-ci veut rassembler. Est-ce qu'il va y réussir, pensez-vous ? Est-ce que des alliances vont se faire bientôt ?
Non, la mission est compliquée, je pense, pour Monsieur Petro, qui était assez bien positionné dans les sondages dernièrement, parce que si on projette les résultats des élections législatives d'hier sur la campagne présidentielle, hein, c'est Iván Duque qui est largement en tête. Mais vous voyez aussi, Petro, il occupe un espace à gauche qui est justement l'espace que n'occupent pas les FARC, c'est-à-dire de la gauche réformatrice et modérée, si vous voulez. Et toute la difficulté en Colombie, c'est justement est-ce que cette gauche trouve son espace et son discours. Or, la Colombie a, dans l'ensemble, un système politique relativement conservateur, dont les élites se reproduisent régulièrement, qui sont issues des mêmes groupes, des mêmes milieux, des mêmes familles. Et c'est aussi le cas de Duque, dont le père a été ministre et qui lui-même est très proche de Álvaro Uribe.
Finalement, Álvaro Uribe, est-ce le grand vainqueur de ces élections législatives et est-ce qu'il sera renforcé ?
Ah, bien évidemment, oui, c'est effectivement lui un des vainqueurs de ces élections. Son parti sort en tête, et les positions qu'il défend ont été approuvées par une partie notable des Colombiens. J'espère que ça ne veut pas dire que la paix va reculer, si vous voulez, parce que Álvaro Uribe était quand même très critique. Et là, si vous voulez, on est quand même face à un problème assez sérieux en Colombie, c'est-à-dire que les FARC se sont très largement démobilisés hein, dans des zones spéciales, ils ont déposé des armes. Et en même temps, toute l'année 2017, on a vu monter les violences contre les leaders sociaux, les leaders syndicaux. D'après les sources colombiennes, il y a eu plus de 100 assassinats de leaders syndicaux l'année dernière. Donc les FARC démobilisés peuvent peut-être se faire du souci. Les FARC pourraient très bien, une fois démobilisés et démilitarisés, se retrouver ciblés par des assassinats.
Et la FARC, vous pensez, aura quand même un rôle à jouer dans cette présidentielle, même si on le sait, son candidat s'est retiré de la course ?
Oui, il me semble notamment, bon, il y a un certain nombre d'élus, donc, enfin, plus exactement de membres des chambres qui n'ont pas été élus, mais qui ont été désignés par les FARC pour les représenter, et je pense qu'ils auront des choses à dire dans le débat. La Colombie, ça reste un pays extrêmement inégalitaire. Il faut aussi qu'on fasse entendre des voix en défense de ceux qui sont les moins bien servis dans le partage.
Est-ce qu'il y a aussi à craindre pour les futurs accords avec l'ELN qui sont en ce moment sur la table ?
Le président Santos aurait bien aimé les finaliser avant la fin de son mandat, mais ça ne sera pas le cas. Et du coup, il reviendra au prochain président de continuer ce dossier. Or, il pourrait très bien avoir des positions beaucoup plus dures vis-à-vis de l'ELN que la position de négociation musclée hein, du président Santos.
Merci beaucoup Sébastien Velu. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut des hautes études d'Amérique latine.
Merci à vous.
Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Ces élections législatives en Colombie, il en est également question dans la presse colombienne, bien évidemment, qui salue le bon déroulement du scrutin.
Oui, elle tient pour, par exemple, n'hésite pas de parler de journée historique, car à quelques exceptions près, note le journal, les législatives se sont déroulées sans acte de violence. L'un des grands gagnants de ce scrutin, d'après l'hebdomadaire Semana, et effectivement, on vient l'entendre aussi, le sénateur et ancien président Álvaro Uribe, il a montré encore une fois qu'il était un animal politique, écrit Semana, qui souligne que ce farouche opposant aux accords de paix avec les FARC a obtenu le score le plus important avec 860 000 voix, je vais y arriver, pardon. D'après El Espectador, il s'agit toutefois d'une victoire douce amère pour la droite radicale qui est certes devenue la première force du Congrès, mais n'a pas remporté un résultat à la hauteur de ses espérances. El Espectador note également l'échec des anciens guérilleros des FARC qui n'ont pu obtenir que 0,34% des voix à la Chambre des représentants et 0,22% au Sénat. C'est sans appel, commente Semana, une majorité des Colombiens ne souhaite tout simplement pas que les anciens combattants des FARC participent à la vie politique. Grâce aux accords de paix, ils sont quand même assurés d'avoir 10 représentants au Congrès, le parti FARC sauvé par les accords de paix, titre d'ailleurs le journal El Colombiano.
On part aux États-Unis à présent où l'administration Trump persiste et signe dans sa volonté d'armer les enseignants et de les former au maniement des armes après la fusillade de Parkland.
Oui, c'est à la une du Washington Post. Anne qui cite un conseiller du président, selon Andrew Breinberg, l'administration va travailler avec les États pour mettre en place des formations rigoureuses au maniement des armes à destination de personnel volontaire des écoles. Le journal précise que le gouvernement n'a pas proposé d'aide financière pour ce programme, un programme salué, note le journal, par la puissante organisation pro-armes, la NRA, mais très critiquée par le principal syndicat des enseignants, le National Education Association.
Autre sujet à la une, Arim, les ennuis judiciaires et peut-être un nouveau scandale sexuel pour Donald Trump.
Exactement, il s'agit de l'affaire Stormy Daniels, une ancienne actrice porno qui affirme avoir eu une courte relation avec le président américain. C'était en 2006, selon le New York Times. La chaîne CBS a recueilli ses confidences la semaine dernière dans une interview dont la diffusion n'est pas encore programmée, car officiellement, Stephanie Clifford, de son vrai nom, a touché 130 000 dollars en échange de son silence sur l'affaire supposée. Une somme versée en 2016 par l'avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen. Mais seulement voilà, l'ex-star du X ne se sent plus lié à cet accord. Son avocat Michael Avenatti a d'ailleurs déposé plainte pour le faire invalider car il estime nul puisque Donald Trump, selon lui, ne l'a jamais paraphé.
Et puis au Chili, le retour de Sebastián Piñera à la présidence.
Exactement, c'est l'autre titre de cette presse. Piñera qui assumait déjà le poste entre 2005 à 2009. Il revient avec un programme ambitieux, à savoir dépasser le sous-développement et la pauvreté. C'est à la une du journal El Mercurio de Antofagasta. Dans son édition nationale, El Mercurio s'interroge sur cet objectif. Le nouveau président peut-il vraiment transformer le Chili en un pays de premier plan? C'est la question que pose l'éditorialiste d'El Mercurio. S'il réussit, ce sera un succès historique et un signal fort pour le reste du monde. En fait, le président, quelques jours avant sa prise de fonction hier, a donné une interview à l'éditorialiste, une interview dans laquelle il affichait justement son ambition de relever le Chili. De fait, il n'est pas si éloigné des pays industrialisés. Son revenu per capita est de 25 000 dollars, à peine 5 000 de moins que celui du Portugal, rappelle El Mercurio. Ce qui pourrait freiner les ambitions économiques du nouveau président, c'est la conjoncture du prix des matières premières est plus bas lors de son premier mandat. Et l'autre obstacle tient à la politique intérieure. Sebastián Piñera pourrait rencontrer des difficultés pour mettre en œuvre son programme économique car il n'a pas la majorité au Congrès.
Enfin, au Brésil, Arim, les autorités sont visiblement mal préparées pour combattre la violence.
Oui, c'est à l'une du journal Au Globo, le gouvernement de l'État de Rio a réduit l'investissement dans la sécurité à presque zéro, titre le journal. En fait, en 2017, il a consacré à peine 0,14% de son budget à la sécurité publique, alors que la situation à Rio est chaotique, s'étonne le journal.
Merci, Arim Lipold. Et tout de suite, c'est l'actualité ultramarine avec le journal de la première Caraïbe présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
En Guadeloupe, deux syndicats d'ouvriers agricoles vont porter plainte pour empoisonnement.
Oui, il s'agit des syndicats CGTG et CGTM et il s'agit surtout, vous l'aurez sans doute déjà compris, des conséquences de l'épandage du pesticide chlordécone dans les bananeraies des Antilles jusqu'en 1993. Ronan Poney.
Les ouvriers ont épandu à la main ces produits chimiques avec des vêtements de protection illusoire. Peu de femmes ont atteint chez nous l'âge de la retraite, constate avec amertume un ouvrier agricole. L'Agence régionale de santé a bien fait des prélèvements en 2011, mais aucun résultat n'a été rendu public. Fin de citation. Les paroles sont terribles, mais il manque la preuve scientifique absolue pour étayer le soupçon. La preuve que cela a déclenché des maladies chez les humains. On le sait pour le cancer de la prostate, mais pour les femmes par exemple, qu'en est-il? Et puis il va falloir rechercher les responsables. Ceux qui ont racheté le brevet pour produire l'insecticide au Brésil le savaient. Ils ont produit le poison en toute connaissance de cause. Seront-ils juridiquement responsables un jour? Il faudrait un magistrat pour s'auto-saisir. Il faudrait une enquête de police qui n'a pas lieu.
Direction la Martinique maintenant, où la Martinique, où la mobilisation générale est une fois de plus décrétée contre l'envahisseur brun et gluant. Vous avez reconnu les indésirables algues sargasses de retour en masse sur la côte atlantique de la Martinique. Christine Cupit.
Afin de protéger la population le mieux possible, l'ARS a activé le réseau épidémiologique Sentinelle. 17 médecins ont été sollicités, ainsi que le SAMU et le service des urgences. Par ailleurs, un nouveau capteur a été installé et un autre déplacé. Au total, 14 capteurs fixes sont déployés et 7 mobiles. Pour le moment, nous n'avons pas atteint les seuils d'alerte. Nous en sommes encore loin. Pour rappel, ils sont de 5 ppm par 24 heures. Or, la valeur maximale enregistrée récemment est de 2 ppm. Elle a été localisée dans la ville du François et a concerné une quarantaine d'habitations. Enfin, l'enveloppe de 500 000 euros débloquée par le préfet permettra aux collectivités de financer le ramassage et le stockage des sargasses en faisant appel à des entreprises spécialisées. Un coup de pouce supplémentaire de 200 000 euros sera destiné à l'acquisition de matériel par les communes. Depuis 2015, 2 700 000 euros ont été déjà consacrés à l'achat de tractopelles, bennes et camions.
Un dernier mot pour vous dire que le candidat à la République En Marche, Lénaïque Adam, dont l'élection avait été invalidée en décembre, a remporté la législative partielle hier dans la deuxième circonscription de Guyane. Il l'a emporté par 50,65% des suffrages contre 49,35% contre Devirimane, soutenu par la France Insoumise. En juin 2017, Lénaïque Adam l'avait déjà emporté de 56 voix face à Devirimane. Bon après-midi, Anne. À demain.
Et vous aussi, merci beaucoup Benoît Ferrand. Et on termine en musique, on part au Brésil pour la nouvelle compilation de John Armstrong, Afrobeat Brasil, qui regroupe la nouvelle génération de musiciens qui rendent hommage à l'héritage funk de Fela. Voici un extrait, Bass do Tambo.
Se quiser balançar, abalando as estruturas. Decidi pra ver qual vai ser. Sente a vibração nascida do som. Canta pra subir, ergue pra seguir, segue pra viver. Sente o tempero, os metais em brasa faiscando. O som tá na panela e o fogo tá aceso. Bastou uma fagulha e tava acesa a lenha. Bate o tambor que do baile ela tem a senha. Tem mais informação, buscando inovação. Real revolução, eu falei. Nessa altura dessa vida não se espera por isso. Pela cura, a procura pela cura, a cura pelo som.
Passe do Tambo, extrait de la compilation Afrobeat Brasil. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci à Jonathan Brady, à la réalisation. On se retrouve demain pour l'actualité d'Haïti et des Amériques. Très bonne journée à tous.
Spicons français, Yvan Amar. Spiquons français, évidemment, mais attention, pas n'importe lequel. Spiquons notre français. Un français nouveau, moderne, qui se réinvente chaque jour. Alors jouez avec RFI et à partir de la liste de 25 anglicismes qui vous est proposée, trouvez des équivalents pour sourire et pour faire sourire les autres. Soyez inventifs. Nous attendons vos réponses.
Envoyez-les à jeu.dansedemo@rfi.fr.